Vous écoutez On lit pour vous.
Pourquoi le marché du travail est en train de se fermer aux stagiaires? Un texte de Marie-Ève Martel paru le 10 juin 2026 dans Urbania. Un stage, ça peut être un été à remplir des tonnes de formulaires, à faire du café ou toutes les tâches plates dont nos collègues veulent se débarrasser. Mais c'est aussi souvent un premier pas important vers notre future carrière. Pourtant, pour plusieurs étudiants, dégoter un stage, c'est presque devenu l'équivalent de gagner à la loterie. 76. C'est le nombre de CV qu'a envoyé Marianne au cours de la session d'hiver dans l'espoir de se trouver un stage cet été. J'ai envoyé ma candidature pour 36 postes pour lesquels j'avais les qualifications, qu'il s'agisse de stages, de contrats temporaires ou d'emplois de niveau universitaire, explique l'étudiante en fin de baccalauréat. J'ai aussi envoyé une quarantaine de candidatures spontanées en demandant un stage, qu'il soit rémunéré ou non. Compléter un stage de 15 semaines fait partie des exigences à sa diplomation. Comme elle étudie à la fois les affaires publiques et l'urbanisme, elle aurait dû avoir l'embarras du choix. « Ça fait pratiquement un an que j'ai entamé mes démarches, parce que je voulais m'y prendre d'avance », relate Marianne. Une entreprise était prête à la prendre, mais à raison de 25 heures par semaine bénévolement. « C'est quand même une expérience dans mon domaine », mais comme ce n'est pas rémunéré, c'est un brin compliqué, commence celle qui compte finalement travailler cet été plutôt que de réaliser son stage. Elle gardera toutefois l'œil ouvert pour de potentielles opportunités. Une jungle. Pierre a lui aussi dû se résigner. Il occupera un emploi d'été à défaut d'avoir trouvé un stage en communication, et ce, même s'il a débuté ses recherches en février. « Ça a vraiment pas été évident, note-t-il. J'ai envoyé beaucoup de courriels. Presque tout se passe sur LinkedIn, maintenant. Il sait que les offres les plus intéressantes font l'objet de dizaines, pour ne pas dire de centaines de candidatures. Même si ce n'est rien à côté de la course au stage des étudiants en droit, ça reste une jungle, et ce n'est pas motivant, déplore le jeune homme. Surtout quand on est à l'entrée du monde professionnel. » L'étudiant est passé bien près d'obtenir un stage parfait pour lui, mais le tout ne s'est finalement pas concrétisé. Bon nombre de ses amis sont dans la même situation. Les quelques personnes que je connais qui ont réussi à se placer l'ont fait dans de très grandes compagnies, ou bien ils avaient un contact à l'interne, explique-t-il. De plus en plus difficile. Étudiante en génie forestier et opérations forestières à l'Université Laval, Cynthia a fini par trouver son dernier stage, non sans peine et misère. Comme son baccalauréat coopératif adopte une formule d'alternance entre le travail et les études, elle doit effectuer 3 stages pour obtenir son diplôme, une tâche qui s'est complexifiée avec le temps. Mon premier stage, en 2024, je l'ai eu par hasard. « Je n'avais même pas envoyé de CV », raconte Cynthia. L'année suivante, elle a passé quelques entrevues, mais une fraction à peine sur le nombre de CV envoyés. « Il y a une entreprise qui m'a fait déplacer pour finalement me dire sur place qu'il n'avait pas de travail pour moi cet hiver, alors que j'avais fait plusieurs heures de route pour me rendre », rage Cynthia. Pour son troisième stage, qui devait s'effectuer en automne ou en hiver, la quête a été encore plus difficile. Habituellement, il y a plus de stages offerts que de stagiaires disponibles, mais cette année, on dirait que c'est l'inverse. Il n'y avait presque pas d'offres sur le site du développement professionnel de ma faculté. La seule est apparue vraiment tard et ressemblait trop à mes expériences précédentes. Je voulais un stage différent pour accroître mes savoirs. Une vingtaine de CV plus tard, Cynthia est finalement sortie du bois pour mieux y retourner, cette fois dans le cadre de son dernier stage. Elle admet avoir eu plus de chance que certains de ses camarades de classe qui sont encore à l'étape de la recherche. Angoisse et anxiété. Envoyer son CV, le peaufiner, retravailler sa lettre de motivation, encore et encore. C'est profondément déprimant, voire angoissant, confirment les étudiants. Ce qui les titille le plus, c'est l'absence de réponse ou même d'accusés de réception. C'est pas l'affaire la plus réjouissante d'envoyer ton CV et d'attendre sans avoir de nouvelles. La plupart des compagnies ne contactent que les personnes qui sont retenues pour l'entrevue. Alors, ça vient avec une bonne dose d'incertitude, affirme Pierre. Trouver mon dernier stage a été un gros stress pour moi. Ça a joué beaucoup sur mon anxiété, ajoute Cynthia. J'en suis venu à me demander si mes compétences étaient en jeu, si j'allais avoir de l'attractivité comme employé. Ça a mis en doute ma capacité à me trouver une job. Effet domino. Aussi bien Marianne que Cynthia se sont fait dire par certains employeurs qu'aucun stage ne serait offert cette année en raison de compression. Les perturbations du monde du travail influencent le nombre de stages mis à la disposition des étudiants. En effet, si une entreprise manque de main-d'œuvre, elle n'aura pas nécessairement de ressources à allouer à un stagiaire en formation. Déjà, en 2024, l'École de technologie supérieure, ETS, de Montréal observait un ralentissement du marché du travail, ce qui avait contribué à diminuer l'offre de stages. À l'Université de Sherbrooke, la direction du service des stages et du développement professionnel, SSDP, confirme dans un courriel avoir observé une baisse des offres dans certains domaines, liés à la conjoncture économique et à un monde en transformation. On remarque que le marché du travail est plus fermé aux jeunes de 35 ans et moins, relève Annie Boilard, fondatrice et présidente de Réseau Annie RH. C'est un constat valable aussi bien pour l'emploi que pour les stages universitaires. Ça prend des ventes et de la profitabilité pour payer le stagiaire, mais aussi des projets pour l'occuper et du personnel pour l'encadrer. La donne a donc bien changé depuis l'année 2022-2023, où la pénurie de main-d'œuvre avait atteint son apogée, renchérit la spécialiste. Un constat que dresse aussi Maxime Paquin, enseignant en soutien informatique au Centre de formation professionnelle des riverains à Repentigny. Durant la pandémie, au niveau de l'informatique, il y a eu une explosion de la demande, tellement que les entreprises embauchaient aussi des gens qui n'avaient pas de formation, témoigne-t-il. Les étudiants n'avaient même pas besoin de compléter leur formation pour obtenir un stage rémunéré. Aujourd'hui, la situation a changé. On est en train de vivre une régulation du marché, explique l'enseignant. On revient à la situation d'avant la pandémie, où les stages ne sont plus rémunérés et où il faut travailler plus fort pour en trouver un. Au niveau de l'employabilité, c'est plus difficile aussi. Pendant la pandémie, les étudiants sortaient d'un stage avec un emploi ou une ouverture. Selon les cohortes, ça tourne maintenant autour de 50 %. Notre économie est stagnante. Il y a donc moins de création de postes, et ça, c'est en plus du fait que l'intelligence artificielle remplace beaucoup de postes de premier échelon, indique Mme Boilard, s'appuyant sur des données de Statistique Canada. Viser le marché caché. André Raymond, directeur du service du développement professionnel de l'Université Laval, confirme que les étudiants qui zieutent les affichages ont moins l'embarras du choix. Nous sommes plusieurs universités à dresser le même constat. Les offres de stage sont en baisse de 30 %, note-t-il. Néanmoins, l'université est en voie d'atteindre un nouveau record de stages réalisés cette année. M. Raymond croit que bon nombre de stagiaires se placent avant même que les postes ne soient affichés. La différence, c'est qu'on a un plus grand nombre d'étudiants qui se trouvent un stage par eux-mêmes, qui vont approcher les entreprises et s'attaquer au marché caché, détaille-t-il. Trouver un stage en se fiant uniquement aux affichages est plus difficile, mais pas impossible. C'était « Pourquoi le marché du travail est en train de se fermer aux stagiaires », un texte de Marie-Ève Martel paru le 10 juin 2026 dans Urbania. Thank you.
La controverse passée, le cours trouve ses marques. Un texte de Louise Leduc, paru le 15 juin 2026 dans La Presse. Le cours Culture et citoyenneté québécoise, CCQ, lancé dans la controverse il y a 2 ans, est finalement très apprécié par les jeunes. Laïcité, racisme, homophobie, misogynie, sexualité, justice, entre autres thèmes. Il couvre large. Et ça se passe bien, malgré quelques remous. Sophie Frenette ne pensait pas que le film Maurice Richard ferait réagir dans sa classe. C'était sans compter sur cette scène où le Rocket embrasse son épouse. Objection il y a eu de la part de certains élèves qui ont dit se sentir heurtés dans leurs valeurs religieuses. À ceux-là, elle a dit qu'ils n'avaient qu'à ne pas regarder. Enseignante du cours CCQ, Mme Frenette a été surprise de cette réaction devant un geste amoureux aussi banal. Par contre, quand le cours porte sur l'homosexualité, elle est préparée à toutes sortes de réactions et constate bien que l'homophobie gagne du terrain. Elle rappelle à ses élèves que chacun a droit à ses opinions, mais que l'homosexualité est décriminalisée depuis 1969 et que le mariage gay est autorisé au Canada. Ici, peut-être, ont répliqué des jeunes, mais c'est hors norme. Vraiment? Recherche il y a eu. Résultat, 39 pays reconnaissent le mariage gay. Les quelques fois où ça chauffe un peu trop, sa réponse est toute prête. C'est le programme. Charles-Alexandre Campo, qui donne le cours de CCQ dans une école secondaire particulièrement multiethnique, explique que ça se passe plutôt bien. Même quand il est question de laïcité. En fait, la diversité culturelle est telle dans ses classes qu'il a l'impression que les élèves adhèrent à différents degrés aux principes. Ça n'empêche pas les jeunes, notamment celles qui sont voilées, de se demander si on les acceptera dans la société, à l'heure où la loi sur la laïcité interdit maintenant les signes religieux pour certains emplois. Pour le cours CCQ, le gouvernement dicte de grands thèmes à l'étude. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'examen du ministère ou d'acquis précis à transmettre donne de la latitude aux enseignants qui, au besoin, peuvent insister sur un sujet, comme quand l'homophobie est ponctuellement en hausse, évoque M. Campo. Ce qui fait le plus réagir, la question de l'identité trans. Ça a dérangé, répond-il, ajoutant que ça n'a pas pour autant créé de scandale. Le cours CCQ a remplacé le cours Éthique et culture religieuse. Au départ, estimant que le contenu était délicat et qu'il manquait d'outils pédagogiques, les syndicats sont montés aux barricades. L'implantation obligatoire du cours a donc été reportée 1 an. Et aujourd'hui, même si le cours est vécu très différemment d'une école à l'autre, les échos sont globalement favorables. Pour tous les goûts. Âgée de 15 ans, Iris aime bien le cours qui nous apprend à être de bons citoyens. Mais à son école, précise-t-elle, ça n'a jamais été un cours de culture et de citoyenneté québécoise, mais un cours de culture et de citoyenneté tout court. Ça serait bien qu'on parle du Québec, mais ça serait moins les élèves. À mon école, il y a peu de Québécois de souche. Sa suggestion? Évoquer, plus tôt et davantage, la question du consentement. En fait, depuis le primaire, à part en sciences où l'on a parlé de reproduction, on a très peu parlé de sexualité. Marion, qui termine sa première secondaire, aime beaucoup ce cours, parce qu'il n'y a ni devoirs ni examens, mais aussi parce qu'elle en constate l'utilité concrète. « On a parlé des dangers des réseaux sociaux, » dit Marion. « Ça m'a aidée à comprendre pourquoi mes parents refusaient que j'y sois. » Une jeune fille de première secondaire, d'origine africaine, dit adorer ce cours, qui nous fait réfléchir à nos valeurs. Et elle a aussi sa suggestion. Il faudrait que la discrimination raciale, rampante à son école, soit bien plus souvent abordée. Marie-Lou, qui a 13 ans, aimerait, elle, que le cours parle davantage de la vie de tous les jours, des actualités internationales, des guerres et tout ça. Iliade, lui, ne cache pas que le cours CCQ n'est pas sa tasse de thé. « Je préfère les maths. » Il lui reconnaît quand même une certaine utilité, notamment quand il est question d'exclusion. Objectif : citoyens avertis. Gabriella, qui est en cinquième secondaire, pense pour sa part que le cours est 100% important, mais que, hélas, pendant tout son secondaire, elle n'a eu que des remplaçants pas formés avec des PowerPoint mal faits. Elle souligne que, dans sa classe, il y a des gars qui se sont sentis un peu bâchés quand il était question de masculinité toxique, mais en même temps, ils savent que ça existe. Sivan Hirsch, professeur de didactique à l'Université Laval, relève que, sans s'en rendre compte, par leur cours de culture et citoyenneté québécoise, les jeunes sont exposés à la sociologie. L'un des premiers buts du cours, dit-elle, c'est d'en faire des citoyens avertis, qui ont un regard éclairé sur la société dans laquelle ils vivent et qui apprennent à s'appuyer sur des faits plutôt que sur de simples opinions glanées ici ou là. À son avis, aucun sujet n'est trop sensible, d'autant que ce qui est délicat pour certains est totalement inoffensif pour d'autres. Des enseignants m'ont déjà dit que dans leur région, c'est la protection du béluga, avec ses impacts sur la pêche, qui faisait le plus réagir dans leur classe. C'était la controverse passée. Le cours trouve ses marques. Un texte de Louise Leduc, paru le 15 juin 2026 dans La Presse.
On s'est trompé pendant des décennies sur l'origine de nos chats domestiques, selon une nouvelle étude. Un texte de Cécile Breton, paru le 10 juin 2026 dans Futura Science. Et si l'histoire du chat domestique était totalement différente de ce que l'on croyait depuis des décennies? Une nouvelle étude vient de dévoiler que nos compagnons à moustache ne seraient pas nés là où les chercheurs l'imaginaient et que leur domestication serait bien plus récente qu'on ne le pensait. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que les chats avaient été diagnostiqués au Néolithique, au Levant. Une sépulture humaine découverte à Chypre il y a 7500 ans avec un chat, ajoutée à des analyses génétiques de félins turcs vieux de 6000 ans, semblait indiquer que les premiers chats domestiques étaient apparus en Anatolie avant de se diffuser en Europe avec les agriculteurs. Mais un obstacle persistait. Les squelettes de chats domestiques sont identiques à ceux des chats sauvages, ce qui rendait leur lignée impossible à déterminer. Pour trancher, des chercheurs ont donc analysé le génome de 70 chats anciens et 17 chats sauvages avec une surprise de taille. Aucun de ces félins néolithiques n'était domestique. J'étais sûr d'analyser les plus anciens génomes domestiques, mais je me suis complètement trompé, admet le spécialiste Marco De Martino. Les spécimens turcs appartenant en réalité à des chats sauvages européens, une espèce distincte. Autrement dit, la domestication n'a pas eu lieu au Levant néolithique, même si les humains ont probablement cohabité avec ces félins. Les détails complets de ces analyses sont publiés dans la revue Science. Une domestication bien plus tardive. Ce n'est qu'en étudiant des génomes plus récents, âgés d'environ 2200 ans, que les chercheurs ont identifié les premiers vrais chats domestiques. Leur origine n'était pas européenne, mais directement liée aux chats sauvages d'Afrique du Nord, dont descendent toutes les lignées modernes. À partir de là, tout s'accélère. Dès le premier siècle avant notre ère, ces chats sont déjà présents jusqu'aux frontières orientales et nordiques de l'Empire romain, y compris dans les îles britanniques. En quelques décennies, on les trouvait partout à l'intérieur des frontières de l'Empire romain, explique Marco De Martino. Leur utilité, leur proximité avec l'humain et peut-être leur charme naturel ont très vite joué en leur faveur. Le chat domestique était né et son ascension fulgurante ne faisait que commencer. Une histoire plus récente qu'on ne l'imaginait. La découverte change radicalement notre regard sur l'espèce féline. On repousse l'introduction des chats domestiques d'il y a 8 ou 9 000 ans à seulement 2 000 ans, résume De Martino. C'est une toute autre histoire. Une autre histoire, mais c'est bien celle de nos chats d'aujourd'hui, omniprésents dans nos foyers et désormais dans notre passé. C'était « On s'est trompé pendant des décennies sur l'origine de nos chats domestiques selon une nouvelle étude », un texte de Cécile Breton, paru le 10 juin 2026 dans Futura Science.
Déménager, une affaire de famille au Québec. Un texte d'Emma Hériac, paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science. Changer de village, de ville ou de région, c'est une décision plus fréquente au sein de certaines lignées familiales dans le Québec du 17e au 19e siècle. Depuis près de 10 ans, Marielle Côté-Gendreau scrute les actes d'état civil consignés par l'Église catholique au Québec. Fascinée par ce trésor généalogique, la doctorante à l'Université de Princeton s'en est servie pour retracer l'émigration d'environ 2 millions de personnes à l'intérieur de la province sur une période de 2 siècles. Tous les actes de baptême, les mariages et les sépultures ont été utilisés pour reconstruire les identités civiles de tous les habitants, d'origine française en particulier, depuis la colonisation au XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, ainsi que leurs liens de parenté, explique-t-elle. Elle a suivi le parcours de chaque famille en se référant au lieu de baptême et de sépulture de leurs enfants. Si un couple se marie et baptise ses 2 premiers enfants à un endroit et les suivants à un autre endroit, on peut inférer le déménagement entre les naissances des enfants 2 et 3, souvent de façon assez précise, parce que les grossesses tendent à être rapprochées, précise-t-elle. Marielle Côté-Gendreau démontre ainsi que la plupart des migrations sont courtes, de 10 à 20 km, avec une moyenne de 13 km. Certaines sont plus longues, par exemple l'immigration entre Québec et Montréal, soit environ 230 km. Ces résultats ont été publiés dans la revue PNAS en mars 2026. Le rôle de l'histoire familiale. L'analyse s'étend également aux dynamiques conjugales, étudiées sur 113 655 couples. Pour chaque époux et épouse, la jeune chercheuse a analysé les habitudes migratoires des parents et des grands-parents. À chaque génération, je concentre mon observation sur les 20 ans qui suivent le premier mariage, une période qui est riche en événements vitaux, mais qui est aussi celle où les gens sont généralement les plus actifs et les plus mobiles, détaille-t-elle. Un couple migre d'autant plus quand les parents de chaque membre ont migré auparavant. Les choix des grands-parents exercent aussi une influence, mais deux fois moindre que celle des parents. Au sein du couple, l'historique migratoire familial de la femme a autant de poids que celui de l'homme. Il est d'ailleurs facilement accessible, car les femmes conservaient leur nom de naissance toute leur vie après le mariage, jusqu'au milieu du 19e siècle. C'est un peu surprenant, compte tenu de l'image assez patriarcale de la société, où l'on suppose que les hommes détiennent l'essentiel du pouvoir, souligne la doctorante. Ce qui pousse à partir ou à rester. Alors, comment expliquer ces dynamiques? Quelqu'un dont un parent a migré et qui a de la famille dans plusieurs régions se déplacera plus que quelqu'un dont la famille vit au même endroit depuis plusieurs générations. Dans ce cas, les incitatifs à rester sur place peuvent être liés à certains modes de vie, comme posséder une terre ou exploiter une ferme. De plus, vivre à proximité de ses proches crée un tissu social dense qui freine naturellement les départs. Certains facteurs génétiques peuvent aussi entrer en jeu, avance la chercheuse. Par exemple, la santé peut faciliter ou freiner la mobilité, mais il y a aussi des traits plus intangibles, le goût du risque ou l'attrait pour l'indépendance. Ces traits se manifestent très tôt au sein de la famille. Pour Simon Girard, professeur de génétique humaine à l'Université du Québec à Chicoutimi, cette composante génétique n'est pas à écarter. Mais il sera difficile de prouver son existence, prévient-il, le génome des générations passées n'étant pas accessible. Cela dit, son laboratoire possède l'expertise pour faire des liens entre le génome de personnes vivantes et les comportements de leurs ancêtres. Mais l'appliquer à la question des migrations représenterait un défi de taille. En effet, il faudrait recueillir des données à l'échelle de toute la province. Bref, s'il y a un gène de la bougeotte, il est encore inconnu. C'était « Déménager, une affaire de famille au Québec ». Un texte d'Emma Hériac, paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science.